VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 19 octobre 2015. Eric Manilakiza et Morgane Guirier en votre compagnie. Au sommaire ce soir, Morgane.
Violence au Burundi, au moins 6 corps retrouvés depuis ce week-end.
Et en Guinée, les observateurs de l'Union européenne appellent la commission électorale à publier tous les résultats détaillés pour garantir la transparence du scrutin contesté par l'opposition.
Au Burkina Faso, deux affaires défraient la chronique, le putsch manqué du 1er septembre et l'assassinat de Thomas Sankara.
Ce que moi je souhaite, même comme on va les juger, moi je souhaite en cour pénale. Ces pays, moi je souhaite qu'on les va à ces pays.
Un migrant érythréen a été abattu par un policier en Israël.
Et puis justement, série sur les migrants africains en Europe avec Nicolas Pino, notre envoyé spécial en Italie.
Mali, il n'y a pas beaucoup de solutions là-bas. On préfère venir comme cela que rester là-bas. J'ai plus tous les risques pour venir.
Et dans moins de 10 minutes, Morgane, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La violence s'intensifie au Burundi depuis ce week-end. Au moins 6 corps ont été retrouvés dans la capitale et sur la route nationale numéro 1, parmi lesquels celui de Charlotte Umugwaneza, membre du parti d'opposition MST et activiste des droits de l'homme. Dans ce contexte sanglant, l'Union africaine appelle les protagonistes à amorcer un dialogue. Sur place, notre correspondant Christophe Mourounzid.
Le corps ensanglanté et sans vie de Madame Charlotte Mugwaneza, 46 ans, une mère de 3 enfants, a été découvert samedi près de la rivière Gikoma sur la route nationale numéro 1. Elle avait été kidnappée jeudi dernier alors qu'elle voulait déménager du quartier Chibitoke au nord de la capitale où elle est née, vers Ngagara. Charlotte Mugwaneza était trésorière du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement à Chibitoke, en même temps membre du comité exécutif de l'ELUCOM, organisation de lutte contre les malversations économiques. Elle voulait quitter le quartier dans lequel elle est née, vers Ngagara. Ngagara, un autre quartier, on a trouvé 3 corps samedi. Un de ces 3 corps a été reconnu par la police comme étant un policier chargé de la protection des institutions. Un autre cadavre avait été découvert samedi à Moussaga et un autre corps retrouvé ce lundi à Ngagara. Samedi dernier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait noté une montée continue de la violence depuis le 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza, avec les États-Unis et l'Union européenne, toute la communauté internationale appelle urgemment à un dialogue inclusif où toutes les questions seront débattues sans faux fuyant. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La tension continue de monter au Congo-Brazzaville en rapport avec le référendum constitutionnel du 25 octobre, dont l'objectif, selon l'opposition, est d'ouvrir la voie à un autre mandat du président Denis Sassou Nguesso à la tête du pays. Ce week-end, les leaders de l'opposition, qui avaient organisé un meeting anti-référendum à Pointe-Noire, avaient regagné Brazzaville par avion, accusant les autorités d'avoir empêché leur convoi de quitter la capitale économique. Timothée Dodongmaï, adjoint à Brazzaville, trésor Zila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme.
La voie de sortie de crise, il y a l'urgence de stopper l'escalade vers la violence. L'issue de sortie, c'est que le président de la République, avant l'expiration de l'ultimatum, doit faire un discours dans lequel il annonce qu'il retire son référendum. S'il ne fait pas ce discours, le retrait de son référendum, et demain, c'est tout le monde qui est dans la rue pour demander son départ.
Au niveau du gouvernement, on estime que les Congolais doivent avoir la liberté de se prononcer sur ce projet.
C'est un projet anti-constitutionnel. Au regard de la constitution du 20 janvier 2002, il n'est pas prévu un mécanisme pour changer la constitution. Les initiateurs de cette constitution étaient bien conscients qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il y a le mécanisme de la révision qui était prévu. On peut faire évoluer les institutions au travers de la révision. Mais amener le peuple congolais à vouloir changer la constitution dans le seul but de permettre à M. Sassou de rester indéfiniment au pouvoir, nous disons non.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme.
Deux femmes kamikazes ont tué 11 personnes qui fuyaient leur maison dans le village d'Odar, le nord-est du Nigeria. Selon la police et les autorités locales, les habitants tentaient de se cacher après un attentat présumé d'un groupe islamiste Boko Haram. Cette tactique a aussi été utilisée par Boko Haram dans des attaques au Tchad, au Cameroun et au Niger.
En Guinée, l'Union européenne appelle la commission électorale à publier tous les résultats détaillés pour garantir la transparence du scrutin contesté par l'opposition. Un appel qui tombe alors que l'opposition hésite entre saisir la justice et la contestation des rues. Idi Sango.
Un calme relatif règne en Guinée où toutes les parties, y compris l'opposition, appellent à la retenue. Dans un communiqué, la mission d'observation électorale de l'Union européenne estime que la publication dans le plus bref délai des résultats détaillés par bureau de vote permettra d'apaiser la tension. Elle donnerait aussi aux contestataires les moyens de recours devant la Cour constitutionnelle. Le chef de l'opposition, Sellou Dalein Diallo, refuse de saisir la justice, mais promet des manifestations de rue au moment opportun. Sellou Dalein Diallo accuse le président Condé d'avoir à dessein modifié la composition de la cour et augmenté le nombre des fonctionnaires désignés par l'État en réduisant le nombre des personnalités désignées par la société civile. D'autres candidats malheureux veulent, eux, se tourner vers la cour constitutionnelle, comme les y pousse la communauté internationale. Leur position ne surprend guère, selon International Crisis Group, car il est très difficile d'éprouver les défaillances techniques et surtout les fraudes, et plus encore d'éprouver qu'elles affectent de façon significative les résultats du vote, explique Vincent Fouché d'International Crisis Group.
Eddy Issango, plus de 27 millions d'Égyptiens étaient appelés à voter dimanche et lundi dans 14 des 27 provinces du pays lors de la première phase du scrutin qui se déroulera sur un mois et demi. Le taux de participation d'hier était de 15 à 16% selon le premier ministre égyptien Chérif Ismaël.
En République démocratique du Congo, une personne au moins a été tuée dimanche soir dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais en territoire de Béni, dans l'est du pays.
Et en Zambie, Morgane, l'autorité est à court de solutions pour résoudre l'inflation galopante. En guise de dernier recours, le président zambien Edgar Lungu s'en est remis à Dieu pour soigner son pays. C'était lors d'une journée nationale de prière dimanche, destinée à invoquer l'intervention divine pour résoudre la chute vertigineuse de la monnaie nationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un migrant érythréen a été abattu par un policier israélien qu'il avait pris par erreur pour un suspect dans l'attaque d'une gare routière après qu'un autre homme eut tué un soldat israélien et blessé une dizaine de personnes. Idrissa Seydoudia.
Selon les autorités, le policier qui a tué Moulou Abton Zerom dimanche pensait qu'il était un deuxième assaillant. Une vidéo montre une foule se déchaîner sur l'homme qui était blessé alors qu'il était par terre, couvert de sang, dans cette gare de Becherba, dans le sud d'Israël. La presse locale dit que Zerom était un demandeur d'asile en ville pour s'occuper de son visa. Le vrai agresseur a été identifié aujourd'hui et serait un arabe israélien de 21 ans qui auparavant n'avait, selon les services de sécurité, trempé dans aucune activité extrémiste. Il a été abattu sur les lieux par la police. Cette violence qui dure depuis plus de deux semaines a coûté la vie à au moins 8 Israéliens et à 41 Palestiniens. Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé aujourd'hui à la retenue. Il doit rencontrer séparément cette semaine le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas.
Idrissa Seydou dit tir d'obus au Liban, près de la frontière syrienne. L'armée libanaise aurait ainsi tué 8 personnes, d'après l'AFP, citant des sources au sein des services de sécurité libanais. Une autre source a expliqué qu'un hélicoptère non identifié avait tiré un missile sur les positions des extrémistes sunnites à Wadi Hamdi, à la lisière de ville sunnite d'Arsal, frontalière de la Syrie.
Et nous parlons justement du conflit en Syrie. Les États-Unis vont discuter avec la Russie et leurs alliés dans la région pour tenter d'éviter la destruction totale du pays. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État américain. En visite à Madrid, John Kerry a fait part de son intention de rencontrer les dirigeants de Russie, de Turquie, d'Arabie Saoudite et de Jordanie pour explorer les options qui pourraient peut-être permettre de relancer un processus vers une transition en Syrie.
Et 81 sociétés américaines s'engagent à lutter contre le changement climatique. D'après la Maison-Blanche, c'est des grands noms comme Google, Xerox, Internet, etc.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Lionel Gaïma.
En Côte d'Ivoire, c'est un groupement de producteurs et exportateurs d'ananas, bananes, palmiers à huile, EVA et papaye ont demandé au président Alassane Ouattara d'organiser leur filière comme il a fait pour le café cacao et le coton anacarde. La Banque africaine de développement a accordé un financement de 24,13 millions de dollars au Bénin en vue d'appuyer le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et de renforcement de la résilience au changement climatique. Ce programme couvre les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines, trois circonscriptions assez vulnérables du nord du pays. La Banque islamique de développement, basée à Jeddah, Arabie Saoudite, vient de débloquer 21 millions de dollars, environ 10,5 milliards de francs CFA, pour la construction d'une voie routière reliant le Togo au Burkina Faso, a appris ce week-end l'agence APA auprès de la représentation de la BID à Ouagadougou. Longue de 60 km, la route Tchamba-Sadori, frontière du Burkina Faso, est un passage économique important pour l'économie des deux pays et devrait donner un coup de fouet au potentiel agricole et pastoral de la zone. La troisième édition de journée de promotion des industries culturelles et créatives vont s'ouvrir jeudi prochain à Ouagadougou autour de la question de financement des activités culturelles, a appris APA auprès du ministère en charge de la culture et du tourisme. Les cours du pétrole ont ouvert en baisse lundi à New York dans un marché morose après les chiffres de la croissance et la production industrielle en Chine qui font craindre pour la demande. La Chine et les L'élément principal aujourd'hui, il n'y a rien d'inspirant dans les chiffres de la production industrielle et cela donne un ton négatif pour commencer la semaine, a déclaré Phil Flynn de Price Futures Group.
La Minute Éco, merci Lionel.
Voilà votre page sportive avec Jacques Aristide. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous.
Oui, du football pour démarrer avec la quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations. Plusieurs rencontres ont été disputées durant le week-end, Jacques. Comptant pour la manche aller du dernier tour éliminatoire.
Eh bien oui, le Gabon, la Guinée, le Mali, l'Angola et le Ghana figurent parmi les pays qui sont sortis du lot. Victoire à 2-0 pour le Gabon en déplacement au Tchad. Même score pour l'Angola sur le terrain des Sud-Africains. Ce qui permet aux Gabonais et Angolais de se rapprocher de la phase finale et d'envisager la manche retour avec confiance. Bonne position également pour la Zambie qui a battu le Mozambique 3-0. Les équipes de la Guinée, du Nigeria, Niger, de l'Ouganda et du Burundi, votre pays, ont toutes été victorieuses sur un score identique de 2-0. Quant à la République démocratique du Congo, elle a empoché son billet pour Rwanda 2016 après que la République centrafricaine s'est déclarée forfait. Et quelques réactions à présent. La Guinée-Conakry a battu le Sénégal, score 2-0, je vous le disais. Au micro de Siaka Traoré, écoutons le coach de la Guinée, Kanfori Lapé Bangoura.
Certes, moi j'ai eu réellement que 10 jours de préparation réelle. Je pense que c'est une satisfaction parce que mes garçons ont été très solides, ils ont été réalistes. Malgré les quelques occasions qui pouvaient beaucoup nous mettre à l'abri, je suis satisfait, très bon état d'esprit.
Oui. Le Mali s'est donc imposé face à la Mauritanie hier, toujours au stade du 26 mars, score 2-1. Écoutons l'entraîneur du Mali, Cheikh Oumar Kone.
Notre équipe manque de compétition, donc ça a beaucoup joué sur l'équipe. Mais on a pris un but très tôt en l'entame de jeu. Ça nous a porté sur les nerfs et les gosses ont voulu, ils se sont pressés pour aller à l'abordage des buts adverses, mais pas intelligemment.
Et puis Jacques, football encore, bon début de l'Afrique en Coupe du Monde des moins de 17 ans au Chili.
Oui, bonne entrée en matière des Golden Eaglets du Nigeria samedi. Ils ont battu les États-Unis par 2-0. Un peu plus tôt, les Cadets guinéens n'avaient pas déçu non plus lors du match d'ouverture. Face à la sélection anglaise des 3 Lions Cadets, les Guinéens ont pu tenir tête aux Anglais un partout.
Merci Jacques. Et les détails, c'est dans Sporama à 19h TU tout à l'heure.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour, Morgane. Première escale, le Niger.
Plus de 70 interpellations à Niamey au Niger ce matin à l'issue de manifestations organisées par les structures d'élèves. Manifestations pour réclamer des autorités, notamment la construction de classes en paillotte, un peu plus d'un mois après la rentrée des classes. Plusieurs éléments des forces de maintien de l'ordre ont été blessés. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Ils étaient sortis par centaines des différents établissements des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey pour répondre à l'appel de leur structure. En quelques heures, ils ont érigé des barricades, brûlé des pneus et saccagé biens publics et privés. Le motif de la sortie, la satisfaction d'un certain nombre de revendications, dont la principale est la construction de classes en paillotte pour les élèves. Nassirou Munkela est l'un des responsables régionaux des structures d'élèves de la région de Niamey.
La semaine passée, nous avons lancé un ultimatum d'une semaine aux autorités. Et le gouvernement n'a pas voulu négocier avec nous. Ensuite, nous avons fait un point de presse pour attirer leur attention en lançant un mot d'ordre de suspension des activités académiques et sportives. Et ils sont restés sur leur position. Nous avons estimé que trop, c'est trop, il va falloir qu'on se mobilise pour que nous soyons écoutés. Et c'est pourquoi ce matin, vous avez constaté que l'ensemble des scolaires sont sortis dans la ville pour manifester leur mécontentement face au mépris de ce gouvernement-là.
Le gouverneur de la région de Niamey a dressé à la mi-journée un premier bilan de ces manifestations. Hamidou Garba.
Ils ont incendié ce matin un véhicule appartenant à la chargée de communication de l'ambassade de France. Ils ont encore saccagé un autre véhicule administratif. Il y a deux véhicules du HCR également qui ont été endommagés au niveau de Maurice Delens. Nous avons au niveau des véhicules de la gendarmerie deux pare-brises cassés. Nous avons enregistré deux gardes nationaux qui ont été blessés. Au niveau de la gendarmerie nationale, on a enregistré 5 blessés, dont un adjudant-chef qui est grièvement blessé. Il y a 79 élèves qui ont été interpellés.
Parmi les personnes interpellées, des journalistes et des caméramans partis couvrir les dites manifestations. Mais pour les autorités, il y a bien des instigateurs au-delà des scolaires qui sont sortis ce matin.
Le mot d'ordre est là devant moi. Nulle part il n'a été mentionné qu'il doit avoir des casses. Si la section lycéenne, le bureau, ne donne pas des mots d'ordre de casse, alors qui fait la casse? Qui profite de la situation des scolaires nigériens pour faire la casse? Maintenant, vous me rapportez qu'il y a des journalistes qui sont dedans. Dans les interpellations qui ont été faites, je vous dis que même maintenant, il y a même un agent de la garde républicaine qui est interpellé. Chacun va dire qu'est-ce qu'il cherche là-bas. Si le journaliste est parti pour faire son travail, il n'y a pas de raison à ce qu'on le maintienne. Il va partir.
En début d'après-midi, le calme est revenu dans la capitale nigérienne. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Burkina Faso, deux affaires défraient la chronique, le putsch manqué du 17 septembre et l'assassinat de Thomas Sankara.
Oui, Morgane, c'est le pays des hommes intègres et le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré, a fait son premier point de presse la semaine dernière sur ces deux dossiers brûlants, dit-on. Qu'attendent les Burkinabés de Ouagadougou? La correspondance est signée Zoumana Wonogo.
Pendant son point de presse, le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré, n'a pas voulu revenir sur les chefs d'accusation dans l'affaire Thomas Sankara. Il a choisi le dossier le plus récent, celui du coup d'État manqué. On l'écoute.
Pour le dossier coup d'État, nous avons des chefs d'inculpation allant de l'attentat, l'assassinat, le recel de cadavres, le faux en écriture. Il faut dire que les inculpations varient suivant les personnes. Il y en a même qui sont poursuivis pour crime contre l'humanité. Le général Diendéré est notamment poursuivi pour crime contre l'humanité. La peine encourue peut aller jusqu'à la peine de mort. Le Burkina est un État souverain où la peine de mort n'a pas encore été abolie.
Que pensent et attendent les Ouagalais, les habitants de la capitale burkinabé, concernant ces deux affaires?
Ce que moi je souhaite, même comment on va les juger, moi je souhaite en cour pénale. C'est payé. Moi je souhaite qu'on les va à ces pays.
Drago Boubacar, concernant les chefs d'accusation retenus contre le général Diendéré, je pense surtout sur le crime contre l'humanité. Tuer plein de gens, vraiment ça vaut le coup.
Mon nom est Bamoro Amado. Le coup d'état là, c'est très mauvais. Diendéré, on va condamner à la mort. Il a tué les gens là beaucoup. Comme
Randé Ismaël. Parmi les 11 chefs d'accusation, celui qui m'a le plus marqué, c'est le chef d'accusation par rapport au crime contre l'humanité. Moi, je trouve que c'est trop lourd. Dans un document, j'ai vu que pour accuser quelqu'un de crime contre l'humanité, il faudrait au minimum 100 morts. Et par rapport à ça, je pense que c'est trop lourd pour le général Diendéré. Je suis d'accord qu'on le poursuit pour autre crime, mais pas pour crime contre l'humanité. S'ils disent par rapport au putsch, non, c'est trop peu.
Bonaventure Bambara, ce qui concerne l'inculpation du général Diendéré, c'est une très, très, très bonne chose. Il a fait couler du sang innocent. Quand on fait la somme de tous les crimes qu'il a commis depuis 87, l'affaire Thomas Sankara, l'affaire Norbert Zongo, quand on additionne ça, effectivement, ça voit un crime contre l'humanité. Et je trouve que c'est au moins une centaine de personnes qu'il a eu à tuer directement ou indirectement. Avec cette histoire de trafic d'armes au Libéria en Sierra Leone, c'est le moins qu'on puisse faire.
Il a reconnu sa faute. Donc ça, c'est une condamnation directe. Moi, selon moi, il n'y a pas de jugement. On doit le condamner à mort. Pour tout ce qu'il a fait, pour moi, c'est condamnation à mort.
Selon des médias locaux, des mandats d'arrêt internationaux aurait été lancé contre Fatou Diendéré, l'épouse du chef des putschistes, deux sous-officiers de l'ex-RSP, Roger Koussoubé et Moussa Nebié di Rambo, et Abdul Karim Traoré de Perfectum Afrique. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La chancelière allemande Angela Merkel propose de soutenir la Turquie dans ses efforts d'adhésion à l'Union européenne si elle accepte de mieux contrôler ses frontières et de reprendre des migrants refoulés par les États européens. La Turquie prend en charge, ça, notez-le, plus de 2 millions de réfugiés de la guerre en Syrie et en Irak. Le Premier ministre turc, Ahmet Davutoğlu, a dit qu'il signerait des accords de réadmission si l'Union européenne libéralise le régime des visas pour les Turcs. Nathalie Barge a contacté à Genève le sénateur belge Paul Van den Dresch, qui expose la réaction de la Belgique.
J'ai eu contact avec le cabinet des ministres en Belgique et la position à ce moment est qu'elle supporte la demande de la Turquie pour ouvrir de nouveau les discussions pour l'Union européenne. Et c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la crise énorme avec l'asile, avec les réfugiés, qu'on ne peut pas les mêler ensemble. Ce sont deux choses séparées. C'est bien que la Turquie fait son devoir pour l'affaire de l'asile, mais directement dire alors on va recommencer la discussion et l'ouverture pour la Turquie vers l'Europe, ça, c'est une autre chose.
Est-ce que l'on est conscient tout de même que la Turquie prend en charge plus de 2 millions de réfugiés, ce qui n'est pas le cas de la Belgique ou d'autres pays européens?
Non, c'est normal parce que vous avez naturellement la Convention de Genève, vous avez aussi les accords de Dublin qui dit quand il y a quelqu'un qui demande l'asile, on va le prendre dans le premier pays qu'il arrive. Et alors, pour beaucoup de gens qui cherchent l'asile, ce n'est pas la Belgique ou l'Allemagne, c'est vraiment la Turquie. Même Dans ce cas, je peux vous rappeler qu'en Belgique, le petit pays très dense, que cette année, je pense qu'on va prendre 25 000 personnes comme réfugiés. Mm-hmm. C'est extrêmement haut. C'est le double par capita qu'on fait que d'autres pays européens. Et on a à ce moment déjà des problèmes de capacité. Par exemple, le ministre pour l'asile est en train de chercher des vieux bâtiments qu'il peut renouveler pour les gens et qu'ils ne vont pas se mettre sur la rue. Hein. La Belgique fait déjà beaucoup et on va faire notre mieux. Ça ne peut pas se continuer encore deux ans, quelque chose comme ça. Hein. On doit trouver d'autres solutions.
Pour revenir sur la Turquie, hein, vous avez cité les conventions quant au premier pays qui recevrait les réfugiés. Ouais, cependant, bien, hein. La Turquie, justement, n'est pas un pays européen. Là est bien la question.
Non, mais le problème n'est pas vraiment la Turquie à ce moment. Je pense que le problème est plus grand avec la Grèce. Je pense que la Grèce a un plus grand problème pour respecter les accords européens et mondiaux autour des asiles que la Turquie. Il y a encore quelques autres problèmes avec la Turquie, le droit de l'homme, le problème avec les Kurdes, etc. etc. Hein. Il y a une raison pour laquelle on a retardé les négociations autour de la Turquie à l'Europe. Et je pense qu'on a encore d'autres problèmes à régler avec la Turquie pour que la porte devienne ouverte pour les membres européens.
Paul van den Driessche, chef de la délégation belge à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire, réunie à Genève sous le thème de l'immigration.
Toujours sur le thème de l'immigration, suite de notre série sur les migrants africains en Europe, Morgane, et notre envoyé spécial Nicolas Pinon s'est rendu dans un camp de la Croix-Rouge italienne derrière la gare de Tiburtina à Rome, la capitale. Ces migrants secourus en Méditerranée sont d'abord débarqués en Sicile avant de gagner les grandes villes italiennes plus au nord. Ils poursuivent leur périple et espèrent atteindre l'Allemagne ou la Suède. Le reportage de Nicolas Pinon.
Derrière la gare de Tiburtina, ce camp a été établi en juin cette année pour faire face à l'afflux de migrants en Italie. Il peut accueillir jusqu'à 200 personnes. La Croix-Rouge italienne fournit de la nourriture, un toit provisoire et surtout du réconfort. Ces personnes, en majorité des hommes, ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe. Ils restent dans le camp quelques jours, voire quelques semaines, pour reprendre des forces et poursuivre leurs rêves vers l'Allemagne ou la Suède. Ils viennent d'Égypte, du Soudan, de la Gambie ou du Mali. C'est le cas de Sama Tunkara, 23 ans, originaire de Bamako.
Mali, il n'y a pas beaucoup de solutions là-bas. On préfère venir comme cela que rester là-bas. Moi, précisément moi, je préfère venir comme cela que d'être resté là-bas. Malgré les risques, j'ai plutôt les risques pour venir.
Plus de 137 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Face à ce flux massif et continu, certains Italiens sont pris d'un élan de générosité. Ils apportent au camp de quoi soulager les migrants, notamment des vêtements ou des jouets pour les enfants. Franco Vicari est un habitant de Rome.
D'abord, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Nous n'en avons pas besoin, c'est superficiel. C'est un problème humanitaire énorme qui ne peut laisser indifférent.
Deux autres camps non officiels sont établis à Rome, mais les migrants essaient de fuir au plus vite ce provisoire pour ne pas s'installer dans la durée. En effet, l'hiver approche à grands pas et les conditions de vie seront plus difficiles à supporter. Dawid s'inquiète. Cet Érythréen a laissé sa femme et ses enfants dans un camp de réfugiés à Khartoum.
We live in like this tent.
On vit dans des tentes comme ça.
We have some people here. And this is my bed.
C'est mon lit ici. C'est très dur de vivre ici.
It's very cold. And I think now it's winter here.
L'hiver va venir, donc ils vont changer les tentes. Sinon, on ne pourrait pas survivre au froid.
Les associations d'aide aux migrants espèrent que les gouvernements européens trouveront rapidement une solution durable pour régler cette crise. Depuis Rome en Italie, Nicolas Pinot, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Lionel Gaïma, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.